J'ai des taches pigmentaires.
J'ai des hémorroïdes.
Je fais des pets vaginaux.
Je ronfle beaucoup.
J'ai des petits problèmes de fuite urinaire.
J'ai mauvaise haleine.
J'ai mycose. J'ai des verrues.
J'ai des problèmes d'érection.
Consulte, c'est le podcast d'Easy Para qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez, ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous recevons le docteur Christelle Comte, qui est dermatologue à Paris. Bonjour docteur.
Bonjour.
Enchantée de vous recevoir sur ce premier podcast. Et donc, comme d'habitude, je serai accompagnée de Nathalie, notre experte Easy Para.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous.
Avec vous, docteur Comte, nous allons faire le tour de ce sujet sur les taches pigmentaires. Nous allons vraiment décrire toutes sortes de taches que nous pouvons avoir, comment elles se forment, à quel moment je dois m'inquiéter, à partir de quel âge. Voilà, on va essayer de répondre à toutes les questions que le consommateur peut se poser. Donc, on va commencer tout d'abord par l'origine des taches. Voilà, comment se forment-elles ?
Alors, donc ça dépend des taches sur le visage. Il y a plusieurs formes. Donc, on peut commencer par la fréquence. Les plus fréquentes, c'est ce qu'on appelle les taches de soleil. Et selon l'âge, si vous voulez, c'est ce qu'on peut, chez les enfants, on les appelle les taches de rousseur. On peut penser que c'est normal, mais c'est déjà un signe que la peau a eu trop de soleil par rapport à ce qu'elle est capable de recevoir. D'accord ? Ensuite, chez l'adulte, on peut en voir plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle le photovieillissement, c'est-à-dire le vieillissement de la peau lié au soleil. Donc là, c'est plutôt des taches qu'on aura sur le visage et le dos des mains et le décolleté. Ça, c'est les plus fréquentes. Et puis après, il y a des pigmentations un petit peu moins fréquentes, mais pour autant qui sont quand même qu'on voit souvent. C'est ce qu'on appelle vulgairement le masque de grossesse, qu'on appelle nous mélasma, qui est une pigmentation un petit peu en masque qu'on peut avoir sur le visage, sur le front. Le terme est impropre parce qu'on peut l'avoir certes avec des modifications hormonales d'une grossesse, mais pas seulement, ça peut être aussi toute modification hormonale chez la femme, mais aussi chez l'homme parce que au départ on a beaucoup insisté sur le côté hormonal, mais en fait on se rend compte que c'est surtout le soleil qui est favorisant de cette pigmentation précise. Enfin, on a des pigmentations qui sont liées à ce qu'on appelle post-inflammatoires, qui sont liées à tout processus, par exemple de l'acné, une cicatrice, peu importe, qui va évoluer en ayant été exposé au soleil en une tache brune.
Est-ce qu'on peut parler des taches de sang aussi ?
Alors, les taches de sang, alors ça, je ne l'entends pas très souvent dire par les patients, mais oui, la question, c'est effectivement des choses qui ressemblent à des grains de beauté, mais qui sont rouges foncés. Donc nous, on les appelle les angiomes rubis. Ça n'a rien à voir avec du pigment, effectivement, mais quand elles sont très foncées, si on regarde loin, on peut éventuellement s'y méprendre. Ça vient avec les années, la plupart du temps, sur à peu près tout le corps. Il n'y a aucun danger de transformation, donc la plupart du temps, on n'y fait rien. Voilà, si on veut, on peut les brûler au laser ou en électrocoagulation, mais on peut tout à fait ne rien y faire.
Et alors, comment on va différencier, du coup, un grain de beauté ? Parce qu'on va en parler, je pense qu'on a tous plein de grains de beauté, et parfois certains qui vont nous inquiéter un petit peu. Comment on va distinguer une tache d'un grain de beauté ?
Oui, alors c'est vrai qu'effectivement, sur le corps, il y a des petites taches, essentiellement de soleil, qui sont... bien régulières, bien rondes, qui peuvent passer pour des grains de beauté, notamment sur les avant-bras et les bras. Pour autant, ça ne fait pas une grosse différence, parce qu'on sait que les deux sont à potentiel, éventuellement, en tant que dermatologue, nous, on vérifie toujours que ça ne puisse pas se transformer en cancer de la peau, notamment en mélanome. Et donc, les deux peuvent se transformer en mélanome. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que si on a plus de 30 grains de beauté ou ce qui nous apparaît comme des grains de beauté, il faut consulter un dermatologue pour vérifier si, effectivement, on est à risque ou pas par rapport au mélanome.
Donc, la question, c'est comment je reconnais un grain de beauté qui peut être dangereux ? À quel moment je m'inquiète ?
Voilà, alors effectivement, parmi tous les grains de beauté, quels sont les signes qui doivent vous alerter ou vous inquiéter ? On dit qu'il y a la règle des A, B, C, D, E. Donc A, c'est la symétrie. Si votre grain de beauté il est bien symétrique, bien rond, pas de souci. S'il est un peu irrégulier, c'est moins bien. B, suspects, c'est les bords. Pareil, s'ils sont bien réguliers, c'est bien. S'ils sont déchiquetés, un peu irréguliers, c'est moins bien. C'est la couleur. S'ils ont une seule couleur ou alors deux couleurs, mais ce qu'on appelle en œuf au plat, bien, voilà, bien symétrique, bien régulier, ça va. Mais si par contre, on a à l'extrémité d'un grain de beauté une plage plus foncée qui apparaît, qui n'était pas là, ou même plus clair, ça, c'est un critère qui doit faire suspecter ou consulter. D, c'est le diamètre. Plus que 5 ou 6 mm, c'est plus suspect. Toutes petites lésions, souvent, on s'en préoccupe moins. Et E, c'est le principal, c'est l'évolutivité ou l'évolution. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un grain de beauté qui était marron clair à cet endroit-là, et là, je vois que tout d'un coup, il devient de couleur, il grandit, et ça se fait rapidement. Voilà. Donc, tout ça, c'est des critères qui doivent vous faire consulter un dermatologue, parce qu'effectivement, c'est quand même un diagnostic assez expert. Il faut nous demander.
C'est-à-dire qu'un grain de beauté qui est resté normal pendant des dizaines d'années peut, du jour au lendemain, en fait, avoir une tendance, devenir dangereux.
Oui, on dit qu'un mélanome sur deux, donc les mélanomes, c'est les cancers de la peau qui sont dérivés des grains de beauté, on dit qu'un mélanome sur deux survient de novo, c'est-à-dire sur une peau où il n'y avait jamais eu de grain de beauté, et un sur deux survient sur un grain de beauté qui se modifie. Donc effectivement, vous pouvez avoir toujours eu un grain de beauté, mais il n'était pas comme ça avant, c'est ça la différence. Alors, il faut faire attention parfois, on peut avoir ce qu'on appelle des folliculites sous-néviques, bon, c'est-à-dire qu'on a un grain de beauté et au milieu, il y a un poil, ce qui n'est pas grave, mais par contre, la racine de ce poil peut s'infecter, ce qui fait qu'en deux jours, le grain de beauté peut devenir rouge, très inquiétant. Mais alors, voilà, quand ça se transforme en niveau cancéreux, c'est souvent pas aussi rapide que ça. Ça, souvent, il suffit de mettre un petit peu d'antiseptique. Et si ça dure plus de 15 jours, 3 semaines, on consulte. Mais toute modification, surtout très rapide d'un grain de beauté, ça peut être parce qu'on l'a arraché, parce que c'est dans le dos ou des choses comme ça. On peut mettre une crème cicatrisante pendant quelques jours. Et si vraiment ça persiste, à ce moment-là, on consulte.
Donc, du coup, ça veut dire que, un peu comme chez le dentiste, on devrait avoir finalement des consultations chez le dermato peut-être un peu plus fréquentes que ce qu'on fait.
Alors ça, c'est le nerf de la guerre en ce moment, vous savez. C'est-à-dire que oui, bien sûr, les dermatologues, on a toujours dit que... Enfin, on disait jusqu'à aujourd'hui qu'il faudrait que, pour certains, hein, pour certains, c'est-à-dire les gens qui ont plus de 30 grains de beauté notamment, il faudrait un contrôle dermatologique régulier, sauf que la démographie médicale en général et dermatologique en particulier ne permet absolument plus aujourd'hui de pouvoir faire ça, il faut être honnête. Et donc, on a du mal à savoir quel message de prévention on peut faire passer. Mais donc voilà, je ne peux pas vous donner une réponse claire à ça.
Donc docteur, on a questionné notre communauté sur les réseaux pour savoir s'ils avaient des questions sur les tâches. Et donc on écoute une première question.
Est-ce qu'il y a un côté héréditaire avec les tâches? Si ma mère en a, est-ce que j'en aurai forcément?
En fait, il n'y a pas directement un côté héréditaire. J'allais dire, ça va dépendre de votre père, dans le cas de votre mère, et inversement. C'est-à-dire que si votre mère, elle est très pâle et que votre père, il est très brun, derrière, vous n'allez pas avoir la même peau. Ça dépend la partie de vos gènes qui vont être issus de votre père et celle qui va être issue de votre mère. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que si vos deux parents sont identiques, à savoir blond aux yeux bleus, et que vous, c'est pareil, ou roux, là, vous aurez peu de risques de faire des masques de grossesse, des choses comme ça, mais plus des taches, soit des taches de rousseur, soit des taches de soleil, d'accord ? Parce que votre peau ne supporte pas le soleil. Et réciproquement, pour tout ce qui concerne le mélasma, donc ce masque pigmentaire, plus vous aurez une facilité à bronzer, plus vous aurez le risque de faire cette chose-là. Donc, si vos deux parents sont très foncés, effectivement, vous aurez hérité d'une peau foncée et vous avez plus de risques de faire ça.
D'accord. Merci, docteur, pour votre réponse. On écoute une deuxième question de Johanna, 30 ans.
Est-ce que toutes les femmes font des masques de grossesse ou seulement certains types de peau?
Alors, toutes les femmes peuvent potentiellement faire un masque de grossesse et on ne sait pas sur laquelle ça va tomber. Donc, il faut, dès qu'une femme est enceinte, il faut qu'elle se protège du soleil, ça c'est sûr. parce qu'elle a ce risque-là, en sachant que c'est valable aussi pour des femmes pas enceintes, quoi. On peut tout à fait avoir ce mélasma, même sans avoir d'enfant, ni être enceinte. Donc, c'est vrai que d'une manière générale, il faut se protéger du soleil.
Ah, donc ça veut dire qu'on peut développer un mélasma dans d'autres circonstances, alors peut-être des poussées hormonales ou ce genre de choses-là.
Médicaments aussi.
Ouais, il suffit. N'importe qui peut développer un mélasma à tout âge, sur tout type de peau.
Une autre question de Sarah, 23 ans.
J'ai été traitée pour mon acné et je me trouve avec des taches de cicatrices que je n'arrive pas à faire partir. Est-ce qu'il faut que j'aille voir un dermatologue ou je peux les traiter avec un produit cosmétique ?
Alors oui, effectivement, après l'acné, il peut persister pendant quelques temps des taches soit rouges ou soit brunes. Donc c'est vrai que souvent, une fois qu'on a traité l'acné, nous on considère qu'il n'y a plus de lésions évolutives, donc qu'on est bon, mais les patients, ils ont toujours des taches rouges et ils ont du coup l'impression au niveau social qu'ils ont toujours autant d'acné qu'avant. Bon, première chose, il faut savoir que tout ce qui est rouge, ça se maquille très bien avec un cosmétique type fond de teint, d'accord ? Toutes les taches rouges. Une fois qu'on n'a plus d'acné, il n'y a aucun souci pour le faire. Ça, c'est à très court terme. Après, il y a des cosmétiques qui peuvent un petit peu accélérer la disparition de ces taches rouges, d'accord ? En ce qui concerne les taches brunes, ça va être... Tout le monde ne va pas les faire. Ça va être les gens qui ont tendance à bien bronzer. Mieux vous bronzez, plus vous aurez des risques de taches. En gros, ce que j'explique toujours à mes patients, c'est qu'il y a en gros deux types de peau. Il y a celles qui sont claires et qui ont des risques de rides et de cancer. Et il y a celles qui bronzent très bien et qui n'ont pas de risque de rides et de cancer, ce qui est déjà pas mal, mais qui ont des forts risques de taches. Donc ça, c'est vrai que ça va être des taches sur des piqûres de moustiques, des brûlures ou de l'acné, peu importe. Le bouton d'acné, quand il est parti, il laisse une tache pigmentaire. Donc la première chose à faire, c'est que si vous avez de l'acné et une peau qui bronze bien, bah, faut se protéger du soleil l'été. Vous avez effectivement dans les cosmétiques, vous avez des crèmes solaires qui sont adaptées pour les peaux acnéiques pour qu'elles ne soient pas trop grasses et pas trop comédogènes. Et ensuite, s'il vous reste des taches pigmentaires, il y a aussi des cosmétiques qui peuvent vous aider à les faire disparaître un petit peu plus rapidement en sachant que de toute façon, elles vont disparaître.
Et on écoute une dernière question de Émilie, 28 ans.
Mon enfant a 3 ans. Il est roux avec des taches de rousseur et je voulais savoir à partir de quel âge je dois avoir une première consultation.
Chez l'enfant, le mélanome est rare, toutefois il peut arriver, donc son enfant a une lésion, alors en plus chez l'enfant le mélanome n'est pas toujours de couleur foncée, ça peut être une espèce de bourgeon couleur chair ou rouge, voilà. Donc ça vraiment, de toute façon, si votre enfant a quelque chose de nouveau qui dure plus de 3 semaines sur la peau, vous l'amenez voir votre dermatologue, ça n'a eu aucun souci, mais sinon, s'il est roux, il faut surtout se concentrer sur la prévention solaire. Donc, s'il a des taches pigmentaires, ça veut dire que malheureusement, il a déjà eu trop de soleil par rapport à ce que sa peau peut supporter. Donc ça, c'est déjà un signe qu'il va falloir que vous arriviez à le protéger encore mieux. Donc d'abord, la protection avec des vêtements, évidemment, donc chapeau, lunettes de soleil, etc. Et puis sur les zones qui ne peuvent pas être couvertes par des vêtements, comme le visage et le dos des mains, bien sûr, de la crème solaire à renouveler toutes les 2 heures.
Donc du coup, on a parlé de beaucoup de sortes de taches, mais effectivement, on a omis de parler des taches de vieillesse. Alors déjà, c'est quoi une tache de vieillesse ? À partir de quel âge elle peut apparaître ? Et comment on va les reconnaître ?
Oui, alors c'est vrai que nous, dermatologues, on ne dit pas tache de vieillesse, c'est pas très chouette. Alors on dit, dans notre jargon, on dit l'antigo-actinique, ce qui veut dire tache solaire. Et pour, à juste titre, parce que c'est pas les années qui déclenchent ces taches-là, mais c'est uniquement le soleil. C'est-à-dire que deux personnes du même âge qui auront, par exemple, 80 ans, dont une qui aura vécu dans une cave avec le même type de peau, sa sœur jumelle, on va dire, elle aura zéro tache de vieillesse, alors qu'elle aura aussi 80 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent bien que, d'ailleurs, il suffit qu'ils regardent les taches, entre guillemets, de vieillesse. Elles ne sont que sur les zones qui sont exposées au soleil, c'est-à-dire le visage, le dos des mains et les avant-bras. Si vous regardez sur la face interne de vos bras ou sous les seins ou des zones comme ça où, qui ne voient pas souvent le soleil, et bien là, vous n'aurez aucune tache de vieillesse. Donc, ce ne sont pas des taches de vieillesse, ce sont des taches de soleil.
Je sais qu'il existe donc des crèmes pour les taches, des crèmes spécifiques pour les taches de mains.
Complètement. Il existe des produits en fait qui sont très spécifiques, qui vont permettre de nourrir la peau au niveau des mains et surtout en fait avoir cet effet dépigmentants, comme on les appelle. Et ce sont des principes actifs qui sont souvent non photosensibilisants, puisque les mains vont être mises à rude épreuve devant au niveau du soleil, exposées. Et souvent, elles ont en plus un SPF, un protecteur solaire, qui va venir en fait avoir une double action.
Donc vous, docteur, vous conseilleriez voilà, aux personnes qui habitent dans le sud de la France souvent, enfin en tout cas qui sont souvent exposées au soleil toute l'année, hein, parce que c'est difficile de protéger ses mains, ses avant-bras, et on a beaucoup moins le réflexe, surtout, de le faire. Est-ce que vous, c'est le genre de produit voilà, ou de protocole en fait, que vous conseilleriez d'appliquer tout au long de l'année, ou à certaines périodes du coup?
Alors là, oui, réponse sans ambiguïté, oui. La crème solaire, surtout si on parle de photovieillissement, le photovieillissement, c'est essentiellement le visage, le décolleté, le dos des mains et les avant-bras. Et alors, je suis d'accord avec vous, c'est vraiment l'enfer de penser à se photoprotéger le dos des mains et des avant-bras. Et vraiment, c'est le dernier truc qu'on a envie de faire. Et pourtant, il faut vraiment le faire parce que, en plus, ça dépend de l'activité que vous avez. Bon, si vous êtes à l'intérieur toute la journée, c'est pas grave. Mais pour, par exemple, moi, je fais du vélo. Si vous avez du vélo, vous avez les bras étendus en avant, vous êtes au soleil et c'est pas que vous êtes sur la plage. Mais clairement, si vous faites du vélo tous les jours pour aller au travail ou si vous mettez les mains sur le volant, les UVA passent à travers le pare-brise, vous recevez des UV et ça va vous faire vieillir la peau. Donc, s'il y a des cosmétiques qui sont adaptés, effectivement, alors forcément, il y a un SPF, ça, c'est la base. Ce qui est important, c'est que le cosmétique, il ait une bonne couverture des UVA et notamment les plus longs, d'accord ? Parce que, et pour certains, on peut avoir une protection lumière bleue parce qu'on sait que les UVA longs et la lumière bleue participent énormément à ces taches pigmentaires, d'accord ? Les crèmes solaires protège en général bien des cancers de la peau si vous les appliquez en quantité suffisante et que vous les renouvelez. Mais par contre, il y a beaucoup de crèmes solaires qui sont un peu des passoires pour les longueurs d'onde qui peuvent provoquer des pigmentations. Donc c'est vrai que s'il y a des cosmétiques qui sont adaptés à ces taches sur les mains et les avant-bras, pourquoi pas avec un dépigmentant pour dépigmenter celles qui sont déjà là, et surtout, dans l'idéal, pouvoir protéger très correctement pour celles qui n'apparaîtront pas si on se protège.
On a l'impression qu'il faut, voilà, la tâche, pour pas qu'elle arrive, il faut surtout qu'on la prévienne. Et donc, quelle que soit la situation, de se protéger du soleil et de se protéger toute l'année.
Alors ça, c'est sûr, vous avez complètement raison. Il faut, et c'est ce qu'on essaye de transmettre à nos patients, parce que souvent les patients disent « Non, mais je vais jamais à la plage, donc je me mets jamais au soleil. » Et en fait, il n'y a pas qu'à la plage qu'on se met au soleil. C'est vrai qu'à peu près tout le monde, je pense, se met de la crème solaire quand ils vont à la plage. Le problème, c'est que voilà, si on fait du vélo, si on attend le bus, si on fait du jardin, si on fait un barbecue avec des amis le dimanche après-midi, en plein midi solaire en mois de juin, il y a plein de circonstances où qu'on fait de la randonnée, où qu'on fait du sport, qu'on fait du footing, qu'on travaille sur un toit parce qu'on est charpentier, que voilà, ou qu'on travaille dans les espaces verts. Il y a plein de gens qui travaillent dehors et qui vont pas à la plage et qui pour autant sont très exposés au soleil et doivent faire du coup attention beaucoup plus que les autres.
Alors Nathalie, du coup, quel protocole on pourrait mettre en place pour les personnes qui ont déjà des taches ou qui voient les premières apparaître ?
Moi, je recommande avant tout, quand on parle de taches pigmentaires, c'est surtout la protection solaire. C'est la première, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Deuxième chose, c'est l'utilisation, s'il y a des taches, d'agents dépigmentants. Donc, moi, mon préféré, c'est quand même le thiamidol. C'est un principe actif qui a beaucoup d'avantages à appliquer sur toutes les peaux, pendant la grossesse, toutes les carnations. Donc, j'aime énormément ce principe actif. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une exfoliation au moins 2 fois par semaine pour renouveler, en fait, la peau et voir sa tache disparaître un petit peu plus vite. Sous prétexte qu'en fait, on veut quelque chose qui aille très vite, en fait. Et on est toutes pareilles. L'utilisation de la vitamine C, puisqu'en fait, elle va être antioxydante et elle va permettre, en fait, d'avoir ce côté prévention au niveau radicalaire et au niveau cellulaire aussi, au plus profond de la peau. Et bien sûr, une consultation chez le dermatologue, une fois par an, comme pour beaucoup de professionnels de santé.
Docteur, vous validez ce protocole ?
Alors, je valide, effectivement. En ce qui concerne les taches, vous avez raison de signaler que la plupart des taches solaires sont bénignes, voilà. Mais il faut signaler qu'effectivement, certaines peuvent se transformer en cancer de la peau. parce qu'elles vont être plus foncées, parce qu'elles vont avoir des caractéristiques. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être gênant quand on a des gens qui proposent de faire du laser esthétique sur ce genre de tâches sans être forcément médecin ou sans avoir une formation adaptée pour pouvoir différencier tout ce qui est bénin de tout ce qui ne l'est potentiellement pas. Donc, c'est vrai que si on a beaucoup, beaucoup de tâches, c'est probablement qu'on s'est beaucoup exposé et qu'on a une peau claire. Donc, ça nécessite un petit œil chez un dermatologue pour peu qu'on arrive à trouver des yeux de dermatologue.
C'est ça. Donc, Nathalie, tu nous as parlé du thiamidol, donc un ingrédient breveté par les laboratoires dermatologiques Eucérine. Docteur, c'est un ingrédient que vous connaissez?
Les études qui ont pu sortir montrent qu'effectivement, ça a une bonne efficacité dépigmentante. Et de manière générale, tous les cosmétiques dépigmentants sont de toute façon des bons relais, d'une part après un traitement médicamenteux, parce qu'un dermatologue peut vous prescrire une préparation à l'hydroquinone sur ordonnance, et ça dure que 3 mois, et derrière il faut entretenir pour bien sûr pas que ça revienne. Et puis il y a aussi souvent que on est coincé parce que à cette période de l'année, là au printemps, les gens ils voient leur mélasma ressortir. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous demandent de les traiter. Et nous, en tant que dermatologues, notre préparation, il faut qu'on la mette seulement l'hiver parce que comme c'est un peu irritant, il ne faut pas irriter une peau qui va être au soleil. Donc en fait, on leur dit « protégez-vous du soleil l'été et vous mettrez une préparation médicale à la rentrée ». Mais c'est vrai que du coup, les cosmétiques interviennent aussi à ce moment-là. Si vous avez, par exemple, maintenant il existe des cosmétiques avec des crèmes solaires avec des dépigmentants intégrés. Et c'est vrai que du coup, les cosmétiques dépigmentants, vous pouvez aussi les utiliser l'été. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est la période où les gens y pensent. Et du coup, c'est quand même toujours utile de profiter de ce que les gens s'en rendent compte.
Et donc, ces cosmétiques dépigmentants, ils vont pouvoir convenir à tout type de peau?
Oui, alors ça dépend dans quelle crème et de la galénique de la crème dans laquelle ils sont incorporés. C'est-à-dire que vous avez tout type de véhicules auxquels ils peuvent être incorporés. Donc c'est vrai qu'il y en a dans des gammes anti-acné, il y en a dans des gammes anti-âge, il y en a dans des gammes solaires. Donc il faut choisir en fait le cosmétique dont on a besoin pour son type de peau. Genre j'ai 18 ans, je pars en vacances, j'ai beaucoup d'acné et je vais avoir des taches. Comme je bronze bien, je risque d'avoir des taches. Ben là on choisit un cosmétique anti-acné qui peut intégrer des dépigmentants. Ou je suis une femme de 70 ans, j'ai déjà pas mal de taches. Je veux quelque chose qui soit anti-âge, cosmétique, qui soit pas épais sur le visage, et je veux juste me protéger et aussi unifier mon teint avec quelque chose qui va en même temps faire un peu disparaître mes taches. Donc voilà, il faudra choisir. Par exemple, on parlait du thiamidol, ça c'est un agent dépigmentant, il peut être mis dans plein de préparations pour plein de buts différents.
Bon, je pense qu'on a fait largement le tour donc, de cette question des taches pigmentaires, ses origines, ses formations, et le maître mot, ça va rester la prévention. Donc vous pouvez évidemment retrouver ce podcast en replay, c'est le but. Et on a été ravis de vous recevoir Christelle Comte pour ce premier podcast sur les taches, et on vous retrouvera très très vite pour un prochain épisode donc sur l'allergie au soleil, sur un sujet sur lequel j'imagine il y a énormément à dire. Donc ce sera dans un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie.
Merci à vous deux.
Merci également.
Et on vous dit à très très bientôt. Merci encore Christelle Comte et à bientôt.
Avec plaisir, au revoir.
Ce podcast vous a été présenté par easypara.fr, votre parapharmacie en ligne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À très vite.